Il y a un mois, je devais emmener un couple américain à Lille pour qu'ils prennent leur train. Et j'étais un peu énervé parce que je ne voulais pas vraiment les emmener. Je dis, ils ne peuvent pas prendre le train tout seuls. Et je dis, oh, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma journée. Mais quand même, j'ai dit, pour un Américain, c'est quand même difficile de prendre un train pour Paris depuis Gare Lille-Flandre. Et donc, j'ai dit, je vais quand même les accompagner. Et j'ai dit, je vais faire vite. Je vais juste les emmener. Et après, je vais prendre en 5 minutes le train de retour. Mais malheureusement, je suis tombé dans un mauvais créneau, là. Donc, le prochain train de retour, à ma grande joie, c'était 2h30 plus tard. Et donc, comme l'homme de Dieu que je suis, j'ai dit « Alléluia !» J'étais quand même un peu énervé, j'ai dit « Mais comment je vais perdre mon temps ?» Et j'étais frustré, j'ai failli jurer dans mon homme intérieur. Mais quelquefois, ça nous arrive, non, d'avoir des moments de frustration où il semble que mon programme est changé et je ne vais pas produire autant aujourd'hui que j'aurais espéré. Mais peut-être que Dieu, il a une autre possibilité au cœur de notre frustration. Et c'est ce qui m'est arrivé. Parce qu'au lieu de trop m'éloigner quand même, j'ai dit, oh, mais comment est-ce que je peux utiliser 2h30? Et j'ai dit, oh, mais je sais ce que je vais faire. Je vais aller, je vais visiter Vieux-Lille. Et je vais visiter surtout la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Et je ne sais pas si vous connaissez bien cette cathédrale, mais c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Bon, il y a Jacques qui a joué là. Mais c'est magnifique. Il y a toujours un accueil. Moi, je sens quand je vais là-bas qu'il y a les bras de Jésus qui t'accueillent quand tu entres là-dedans. Et il y a la musique souvent, une musique divine qui joue. Et tu te sens porté. Et c'est un bon lieu pour passer 2 heures. Alors là, j'ai dit, je vais y aller, juste comme ça. Mais je ne m'attendais pas plus que ça. C'était un peu, voilà, je vais y aller, je serai à l'abri, je peux m'asseoir. C'est un peu, il n'y a pas trop de vent, ils ont mis le chauffage, tout ça. Mais après, Dieu, il a d'autres projets quelquefois pour notre vie. Et j'étais vraiment surpris par une expérience de la présence de Dieu que j'ai vécue. Et donc dans ma vie, j'ai vécu 2 ou 3 grands moments de spiritualité, je dirais. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi dans la vie quelquefois de vivre des moments de spiritualité où Dieu semble être tout près de toi. Et souvent, c'est comme le soleil qui se lève. On ne le choisit pas. Ça nous tombe dessus, comme ça. Et j'étais dans cette cathédrale. Et c'est comme si, pour la première fois de ma vie, j'ai remarqué les stations de la croix. Je ne sais pas si vous connaissez la cathédrale de Lille, mais ils ont des grands tableaux modernes, assez modernes, faits par un artiste local. C'est un peu, c'est pas abstrait, mais les têtes de Jésus, c'est un peu triangulaire, tu vois, c'est un peu spécial. Mais tout d'un coup, j'étais saisi. C'était comme s'il y avait un bras qui m'a attiré vers ces tableaux. Et pour être honnête comme un bon protestant, hein, j'ai jamais fait les stations de la croix de ma vie. J'ai été élevé dans l'église anglicane. Alors là, on ne fait pas les stations de la croix. On n'a pas toujours les stations de la croix dans nos églises. Même si on est une église historique, on n'a pas ces stations de la croix. Et même quand j'ai visité les églises catholiques, j'ai jamais eu envie de faire une station de la croix. Mais là, et c'était plus fort que moi. C'était pas prévu. C'était comme si Jésus prenait mon cœur. Il dit, allez, place-toi là et regarde. Et là, j'étais conduit. Et j'étais devant le premier, la première station. Jésus est condamné à mort. Et là, tu vois cet homme qui se penche, qui a l'accusation, qui a la condamnation collée à sa peau. Et ça m'a parlé. Combien de nous, combien de fois moi j'ai été condamné? Combien de fois j'ai été condamné par une parole, par un parent, par un professeur, par des paroles de quelqu'un? Et c'est toujours difficile d'être condamné. C'est toujours difficile d'être condamné. Et tout d'un coup j'ai vu ce Jésus condamné. Et c'est comme si il y avait une voix qui retentissait dans mon cœur. Il comprend ce que c'est d'être condamné. C'était comme si je parlais à un ami. Je pouvais lui dire, tu sais, j'ai été condamné aussi. Ah oui, parle-moi, Robert, parle-moi, mon père. Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais je devais être en Christ Jésus. Je sais que nous, on aime beaucoup la parole, hein, mais le visuel est toujours là. Dieu peut parler par le visuel. Et là, c'était comme si j'étais accueilli par Jésus, même dans cette première station, devant ce premier tableau. Et j'ai pleuré, et j'ai été visité. Je ne sais pas comment, si vous voulez faire une expérience spirituelle, si vous avez 2 heures à lire, passez à la cathédrale de la Treille et faites une petite station de la Croix. Mais j'étais là, et après il y a le deuxième, Jésus porte sa croix. Et là tu vois un Jésus coincé. C'est comme si sa tête, sa nuque est prise entre les deux bois. Il ne peut pas bouger. Il est serré. Et après là, j'ai pensé au moment de ma vie où j'ai été vraiment serré. Où il n'y a pas beaucoup de mouvement, pas beaucoup d'espace d'action. Et encore là, je ne sais pas, le temps coulé. J'étais perdu. Et bon, je ne vais pas aller encore, mais... Après, tu as Jésus qui tombe, Jésus qui voit sa mère, parle aux femmes de Jérusalem. Et il y a une partie tradition dans ce chemin de la croix. Ça veut dire qu'il y a une partie qui n'est pas forcément écrite dans la Bible. Il y a des parties qui sont écrites dans la Bible qu'on peut lire, mais il y a des parties qui sont le fruit de la tradition. Mais c'est une bonne tradition. Et après, j'ai fait mon chemin. Et ça devient très dur à un moment donné, très très dur. Parce qu'il y avait un tableau où Jésus est complètement dépouillé de ses vêtements. Et l'artiste, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a tellement humanisé Jésus là-dedans. Et Jésus, bon, c'est mon interprétation, mais il est là comme un petit vieux, dans la vulnérabilité de la vie, toute nue, toute vulnérable. Et j'ai vu l'immense vulnérabilité de nos vies quelquefois. L'immense vulnérabilité de nos vies, quand les gens arrachent des choses de nous, quand ils arrachent une place, une autorité, et c'est pas donné. Moi, j'aime bien donner des choses, mais quand quelqu'un arrache, quand quelqu'un nous humilie, c'est dur. Et quelquefois, on se trouve dans la honte, on se trouve là, faible dans la vulnérabilité. Et après, bon, je vais pas dire tout ce que j'ai vécu devant Jésus cloué sur la croix, Jésus qui meurt, Jésus qui est mis au tombeau. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Et le temps passait. Vraiment, j'étais visité par le Seigneur. Mais de tout ça, j'aimerais parler de 3 choses. Et j'ai fait un petit dessin, si quelqu'un peut mettre... Parce que bon, je ne peux pas vous parler de ces tableaux sans vous montrer quand même. Et voilà, c'est super. Avec toute la tristesse que j'avais, toute la tristesse quand même, il y avait 1, 2, 3, 4, normalement il y a 14 stations dans les chemins de la croix. Mais gloire à Dieu, à la cathédrale de Notre-Dame de la Treille, il y a une 15e station. Et j'étais tellement content d'arriver à cette 15e station, après la condamnation, après la crucifixion qui est bien vraie, la souffrance de cette vie, après avoir cheminé 1, 2, 3 comme des clous, comme des difficultés, je suis arrivé à cette 15e station. Waouh! La victoire de la résurrection. Et j'étais là avec un Jésus qui sourit. Alléluia. Après toute l'humiliation de sa nudité, après toute l'humiliation de sa crucifixion, après tout le péché, toute la peine, tout le rejet, toutes les misères de ce monde, il y avait un 15e station. Et je veux vous dire ce matin, nous sommes en route. Nous sommes en route vers cette 15e station. Si vous êtes dans la condamnation, si quelqu'un a arraché vos vêtements, votre gloire, votre dignité, si le péché a arraché votre dignité, sache que quelqu'un est plus grand que le péché. Sache que quelqu'un est plus grand que la mort, plus grand que les paroles blessantes. Et c'est Jésus qui a vaincu la mort. Anastasis, il s'est levé de nouveau. Il est ressuscité. 15e station. On n'est pas obligé de le mettre. Hein. J'ai fait un peu de recherche après. On peut garder Jésus au tombeau. Dans le 14e, on dit Jésus est mis, l'a mise au tombeau. Et ça, c'est beau aussi dans la station, dans la cathédrale, parce que ce qui est important dans ces choses, c'est les mains dans ces tableaux. Et tu vois les mains de Marie, les deux Maries. Tu vois les mains qui placent Jésus dans sa mort avec tellement de tendresse, tellement d'amour. Et je pense que ça me parle aussi de l'amitié dont il nous faut dans les moments difficiles. L'amitié de l'Église, l'amitié des frères et sœurs dans les moments difficiles. Et je loue Dieu pour Jésus, il était souvent entouré des mains de femmes. Toute cette main qui console. Et je loue Dieu pour toutes ces anonymes, ces petites Maries, je dirais, toutes ces anonymes qui consolent dans les moments difficiles. On trouve ça dans la famille, on trouve ça dans la société. Mais quand même, on peut choisir de ne pas s'arrêter juste à une sorte de consolation. C'est triste, mais je suis avec toi. Mais il y a plus! Il y a plus! On peut choisir une 15e étape qui est la résurrection. Et ça me réjouit. Ça me réjouit. Et ça me réjouit que c'est dans la cathédrale. 15e station. La victoire de la résurrection. Et quand j'ai dit, bon, là, ça porte pas assez bien, mais tu vois, Jésus rayonne. On a peint ce tableau en or. Et c'est la gloire de la résurrection. C'est l'espérance. Mais comme je dis, bon, moi, je décèle quand même avec la bouche de Jésus, là, un petit sourire. Et comme j'ai déjà dit ici, il y avait un poète irlandais qui disait que la résurrection, c'était un rire libéré pour l'éternité. Et qui retentit dans la vie des saints. Et je pense que ce rire de la résurrection, ce bonheur, cette joie de dire que Dieu aura le dernier mot, et le dernier mot sera un mot de victoire, un mot de bonheur, un mot de restauration, un mot de guérison. Et on peut déjà accueillir quelques syllabes de ce son de victoire, de ce mot de résurrection dans notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant ce culte, accueille les mots de victoire. Par la foi, Jésus est vraiment ressuscité. Pas juste le dimanche de Pâques, mais il est ressuscité chaque jour dans nos cœurs. Et donc voilà, ça c'était... Je commence avec le 15e, parce que quelquefois la vie est dure, et ça commence pas toujours à 15. Il y a 2, 3, 4, 5. Et donc j'ai choisi deux autres tableaux pour mon message ce matin. Et donc, on verra. Pardon ? Ah.
Voilà, tout est ici.
Ah, je ne l'ai pas allumé.
Ouais, c'est bon.
Ah, tout est là.
C'est bon.
Voilà. Voilà. Et donc, j'étais devant ce tableau et je pleurais parce que j'ai vu Saint Véronique, une dame dans la tradition qui était tellement touchée par la peine de Jésus, qui voyait ses blessures, qui voyait sa sueur, son sang qui tombait, qui ruisselait sur son visage, qui portait des larmes de l'humanité, qui portait les blessures de l'humanité, qui allait racheter la sueur d'Adam. Et elle prend un linge et elle essuie son visage. C'est un geste tout simple. C'est un geste tout simple de prendre un linge et d'essuyer le visage de Jésus. Mais vous savez, on a beaucoup de Véroniques, et les Véroniques ne sont pas toujours les femmes, les hommes, pour prendre le linge aussi. Parce que La vie est faite de petits gestes, d'essuyer, nettoyer, laver. C'est, je viens de devenir grand-papa, alléluia. Petit Laetitia est né il y a 5 mois. Et je vois mon fils, il était tellement heureux avant, libre. Il pouvait partir, il était tellement amoureux de sa femme. Et c'était bien, hein, c'était magnifique. Et tout d'un coup... et je ne sais pas, leur lune de miel s'est brusquement s'arrêtée. Et surtout pour les deux, ils disent, mais on ne dort plus. On est en train d'essuyer des fesses tout le temps. C'est comme si ma vie est devenue un processus d'essuyage. Et ce n'est pas toujours des choses qui... Je ne suis pas toujours le miel, quoi. Et après, peut-être comme on découvre qu'il y a les chaussettes à laver quelquefois, même quand on a des grands bébés à la maison. Hein. Et... Michel qui dit oui, oui. Et je pense que chaque jour, on lave, on essuie, on lave. Et quand on a une personne âgée, c'est les aides-soignantes ou même les gens dévoués à leurs parents. Il y a des moments où il faut essuyer. Et quelquefois, essuyer, nettoyer, ça peut être très humiliant. Ça peut nous briser, ça peut nous casser. Cette répétition d'essuyer. Et c'est vrai que si vous voulez dire où est la lutte, la guerre spirituelle, il y a les gens qui sont tellement spirituels, ils mentent, ils lient Satan, ils font des trucs et tout ça. Mais moi, je vais dire, il y a une énorme lutte spirituelle par rapport à ces simples actes de vie. Est-ce que je vais faire ça avec amertume, avec lassitude? Est-ce que je vais faire ça complètement cassé, tellement démoli? Est-ce que ça va faire surgir en moi un sentiment d'amertume, un sentiment d'être exploité, un sentiment de dire « voilà, j'en ai marre, j'ai toujours moi !» Et le linge devient imprégné d'amertume. Le linge est imprégné d'amertume. Mais c'est difficile d'avoir un linge imprégné de l'amertume. Parce que le linge devient, au lieu d'être un objet de service, ça devient un objet de flagellation et de condamnation. Mais vous savez, Saint Véronique nous montre l'exemple. Vous savez ce que ça veut dire, Véronique? C'est un mot latin, c'est un nom latin. Il y a des Véroniques ici? Il y a Monique, hein, mais il n'y a pas Véronique. Il n'y a pas un Véronique, Véro. Et donc, pensez vérité, le mot vérité, c'est latin aussi, vérité. Vero, ça veut dire vrai, la vérité. Et après, ik, qu'est-ce qu'on a dans les églises grecques souvent? Ik, icône. Et donc, véronique, ça veut dire la vraie image. La vraie image, quelque chose de véridique, une vraie image vraie. Tautologie, vraie image vraie. Véronique. Mais ce nom trouve l'origine dans cette histoire. Parce que dans la tradition, Véronique a pris ce linge, elle a essuyé le visage de Jésus, et quelque chose s'est passé, un miracle. C'est que Jésus, il était tellement touché par cet acte d'amour que son visage, l'image de son visage est restée imprégné dans le linge. Et vous avez entendu parler du linceul de Turin. C'est pas exactement la même chose, mais le même système a eu lieu apparemment. On a perdu depuis la relique, mais par tradition là, on dit que quelque chose de surnaturel a eu lieu et le visage de Jésus est resté imprégné dans le linge de Saint Véronique. Et donc, pour nous, des protestants, on est un peu... ça va. Mais on n'est pas très enthousiaste. Même si c'est bien, parce que c'est un peu trop mystique pour nous. Mais je dis, on laisse ça. Mais pour moi, c'est une métaphore. Je pense qu'il faut bien comprendre ça. Même si ça c'est pas à moi de dire si ça a eu lieu comme ça ou non. Voilà. Parce que c'est beau. Moi, je trouve que c'est très, très beau. Parce que... Si je prends ça comme une métaphore, je dirais qu'il y a un enjeu chaque fois que tu prends le linge. Est-ce que ce linge va être imprégné du visage de Jésus? Ou est-ce que ça va être imprégné de ma propre lassitude? Est-ce que ça va être imprégné de mon propre effort et que ça va m'épuiser? Ou est-ce que mon service peut être de nouveau imprégné du visage de Jésus? Il y a toute une lutte spirituelle là, il y a tout un enjeu que quand je suis au service des autres, est-ce que mon service peut être de nouveau imprégné par la présence de Jésus? Et vous savez que Christ est porté et Christ est imprégné sur chaque acte de service fait avec amour. Il faut ça dans un foyer. Il faut ça dans la société. Les gens qui prennent le linge et qui essuient. Et quand ils font ça avec amour, le visage de Jésus est libéré. Le visage de Jésus est libéré dans un foyer. Même un foyer, je dirais, incrédule. Même un foyer qui n'a pas trop lu la Bible. On peut lire la Bible sur le linge. On peut lire le visage de Jésus sur le linge du service. Et c'est ça ce que Jésus regarde quelquefois. Est-ce que j'ai vraiment un linge imprégné d'amour dans mon CV? Et peut-être ce matin, ce n'est pas pour condamner, hein, parce que c'est dur le linge. On dit que la croix est dure, mais le linge est dur. Et de prendre ce linge et de renouveler notre service. Si vous avez un bébé, si vous avez une personne âgée, si vous avez celui qui utilise les deux paires de chaussettes par jour, si vous avez une maison, un sol, ce sol qui est lavé 1000 fois dans une année, toutes ces choses, ça devient tellement l'habitude. Mais dire, mais Seigneur, renouvelle-moi dans ces actes simples que je dois faire. Et donc, Seigneur, fais de moi une sainte Véronique. Donne-moi une vraie image de Christ. Parce qu'il y a beaucoup de blabla dans nos églises quelquefois. Pardonnez-moi. Mais quelquefois, on a beaucoup de théories, voilà, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'annonces, de lectures, de tout ça. Mais est-ce que j'ai le vrai service? Est-ce qu'il y a une vraie image de Christ dans ma vie? Et voilà encore, laisse-moi juste vous lire de Jean. Hein, bon, j'ai le visage. Peut-être on peut juste voir de Marc 10, là, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc Jésus, il montre l'exemple, là. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Combien de services réels existent dans ma vie? Parce que Dieu regarde. C'est ça que Dieu cherche. Et je vais vous dire bravo à ceux qui sont naturellement les serviteurs. Parce que quelquefois, vous êtes méprisés. Dans chaque société, si vous étudiez l'anthropologie, vous allez voir que partout dans le monde, on adore, on honore les orateurs. Ça veut dire ceux qui parlent, ceux qui racontent une histoire, ceux qui font rire. Et on adore les musiciens, les troubadours, tout ça. C'est tous ceux qui parlent, qui font ça. Ah, bravo, bravo, ah, super, super. Partout, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Afrique, c'est pareil. Que celui qui parle, ah, lui, il est honoré. Mais partout, celui qui sert est oublié. Et quelquefois même méprisé. Mais moi, je veux dire que changeant, on n'est pas victime de l'anthropologie humaine. Je dirais l'anthropologie divine, c'est que Dieu regarde ceux qui servent. Dieu regarde ceux qui servent. Et quand on va faire les comptes un jour, il va dire, où était l'amour vrai? Où était l'amour vrai? Vrai. Et l'amour vrai passe par le linge et le service. Alléluia. Donc, si vous dites, mais combien de chaussettes est-ce que j'ai lavé dans ma vie? Je dis, moi, je compte, je sais. Et quelquefois, c'est lavé avec un peu de routine, un peu d'usure, un peu de lassitude, mais allez, quand même, j'accueille tout ça. Mais quand tu laves une chaussette avec amour, quand tu essuies quand tu essuies un nez de bébé, une fesse de bébé avec amour, c'est dur, hein, je ne veux pas non plus aller trop loin, parce que je sais que c'est la routine et tout ça. Mais essayez d'être renouvelé, parce que c'est ça où il y a l'amour. C'est ça où il y a l'amour. L'amour est très, très, très pratique et concret. Voilà, regarde Jean 13, parce que c'est peut-être là où Jésus, il montre vraiment son humanité et il divinise l'humanité, il divinise l'ordinaire. Jean 13, et on commence avec 4 et 5, parce que bon, Jésus, il est souvent à table. C'est bon pour les Français, à table. Oh, attends, quand c'est venez à l'église, on va écouter. À table, on se réveille à table, le cœur s'ouvre à table, pour un petit apéro, bon pâté, c'est bien, à table. Ah, on est réveillé. Donc Jésus, il sait qu'il va enseigner autour de la table. Beaucoup de son enseignement, ce n'est pas dans la synagogue. Il est souvent rejeté dans la synagogue, mais autour de la table, dans l'intimité, il enseigne. Et là, il donne une très grande leçon de vie. Verset 5 de Jean 13, il dit ensuite, verset 4, il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge. Dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau. Combien de fois on verse de l'eau? Combien de fois on verse de l'eau dans la vie? Il versa de l'eau. Dieu a versé de l'eau. Alléluia. Notre Dieu a versé de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer. On a les deux verbes, laver, essuyer. Dieu a divinisé, lavé, Dieu a divinisé, essuyé avec le linge qu'il avait à la ceinture. Alléluia. Et après, versets 13 et 14, vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Et verset 15, car je vous ai donné un exemple. Un exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut copier. Jésus donne un exemple à suivre. Un exemple. C'est simple. Voilà l'exemple qu'il nous donne pour vivre. Et après il dit, parce que tout le monde dit, ah, je veux être heureux. Si vous demandez aux gens, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Je veux être heureux. Je veux être heureux. D'accord, je vous donne un exemple. Comment être heureux? Comment trouver le vrai bonheur? Et voilà, Jésus, il dit ça, verset 20-21. Non, c'est 16-17. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qu'il a envoyé. Si vous savez cela, si vous savez qu'il faut servir, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Et après, il ajoute, parce qu'il nous connaît. Il nous connaît. Et surtout, il parle aux hommes. Hein. Il parle aux hommes ici. Le linge n'est pas uniquement, exclusivement destiné à Véronique à féminine. Je dirais, moi, je veux que les Véros deviennent hommes aujourd'hui. Hein? Et le vrai image de Christ soit aussi dans les hommes avec un linge, dans des actes très pratiques, la vaisselle, les essuyages, tout, le service. Et il dit, parce qu'il parle aux hommes, il dit, vous êtes heureux, hein, pour vous, que vous le mettiez en pratique. Alors voici c'est un enseignement à mettre en pratique. Vous les dames ici, vous pouvez dire à votre mari, vous avez bien écouté le message ce matin. Quand il y a la vaisselle à faire, quand il y a des essuyages, des lavages, ou s'il y a des fils, s'il y a des fils ici ou des gens, tu dis, voilà, écoutez bien, on va mettre en pratique. Oh non, moi je suis dans la prière, je suis dans la lutte spirituelle. Voilà, qu'est-ce que c'est l'exemple de Jésus? Et est-ce que vous voulez être heureux? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonheur caché. Bien sûr, votre chair, votre superficialité va être crucifiée. Le bonheur qui veut juste jouer aux jeux vidéo toute la journée, ça c'est pas un vrai bonheur. Le bonheur, le faux bonheur qui veut se saouler, ou le faux bonheur qui veut juste nourrir la chair, ça va être crucifié. Mais le vrai bonheur, qui est le service et l'amour, est-ce que tu m'aimes? je t'aime chérie. Allez, fais la vaisselle. L'amour passe par le linge. L'amour passe par le linge. L'amour passe par le linge. Et donc, regarde comme elle est belle, Véronique. C'est une femme du Nord. Moi, je vois. Tu vois, il y a les gens qui ils prennent facilement le linge. Moi, j'aime bien. C'est toujours... On prend. Et tu vois cette dame, une femme du Nord, là, avec des mains qui serrent. Merci. Et donc, voilà, un peu de Saint Véronique dans notre cœur. Allez, il faut que ce soit biblique, et donc je vais voir Simon. Et tu sais, c'est encore un ami que j'ai trouvé en faisant mes stations de la croix. Simon de Cyrène. Et si Véronique montre le service, Simon montre la souffrance. Simon montre la souffrance. Parce que c'est vrai que par la foi, on est à la station 15. Et quand nous louons Dieu ce matin, par exemple, la joie, alléluia, oui, moi j'ai fêté la résurrection. J'ai fêté ma résurrection. Je dis, je ne vais pas laisser la tristesse m'envahir. Mais il y a une sorte de paradoxe, parce que même si on est dans cette espérance de 15, il y a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, avant. Et chacun vit ça aussi. Il y a un chant par un groupe américain qui dit « Everybody hurts sometimes ». Hein? Magnifique chant. Hein? Chacun est blessé. Chacun souffre quelquefois. C'est vrai. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui ne souffre pas. Il y a des souffrances cachées. Il y a des souffrances qui sont là, les souffrances de rejet et tout ça. Et donc là, quand je parle de la souffrance, la ciment, il n'avait pas peur d'accompagner Jésus dans la souffrance. Et dans l'image, tu vois, il y a le bras de Simon qui est sur l'épaule. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit, allez, je suis avec toi, Jésus. Et donc, laisse-moi juste, sans aller trop dans une grande théologie, il y a des souffrances vraiment stupides. C'est une souffrance qui est due à ton mauvais comportement. Tu vois, tu fais une grosse bêtise et tu souffres à cause d'une bêtise. Moi, je ne parle pas de cette souffrance. Jésus n'a pas souffert à cause de ses bêtises. Il a souffert injustement. Et donc, je pense qu'il y a deux sortes de souffrances. Il y a des souffrances qui sont notre choix à cause de notre stupidité. Dieu peut racheter ça aussi. Alléluia. Mais il y a aussi une souffrance que Dieu, il nous appelle à cette souffrance. Il nous appelle à accompagner Jésus. Et c'est une souffrance missionnaire. C'est une souffrance qui nous envoie dans le monde. C'est une souffrance qui nous envoie comprendre les gens, aider les gens. C'est une souffrance où, même la souffrance même d'être rejeté par les gens, en partageant l'amour de Jésus. Une souffrance qui est là. Et quand je dis missionnaire, peut-être que je devais dire mission prière. Mission prière. Parce que pour vraiment prier pour quelqu'un, tu as une certaine sympathie avec, je dirais. Une certaine empathie avec. Et donc Simon, il illustre, quand j'étais là, je dis, mais Jésus, dans mes 35 années de service missionnaire, tu m'as donné le privilège de mettre ma main sur ton épaule et de faire ce chemin de souffrance avec toi. Mais c'est une souffrance missionnaire. C'est une souffrance qui m'envoie dans le monde. C'est une souffrance qui m'envoie vers les gens avec une parole d'espérance. Mais ma main est sur l'épaule de Jésus et je partage son cœur. Et Dieu, il nous appelle à ça. Comme ce verset, hein, on va regarder dans le livre de Pierre. Hein. Quand Pierre a écrit ça, il écrivait à une église qui souffrait. Et bon, c'est 1 Pierre, chapitre 2, et verset 20. Bon, je vais commencer avec verset 20, même si ça c'est verset 21. Quelle gloire, 1 Pierre, chapitre 2, verset 20. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Voilà, il est clair. Il dit là, cette souffrance, je ne parle pas de cette souffrance. Si vous avez des mauvais traitements... Parce que tu as cogné ton voisin. parce que tu as couché avec sa femme, parce que tu as volé. Voilà, voilà, ça c'est le fruit des péchés. Donc là, ça exige la repentance. Mais après, il continue. Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance. Ah, combien de personnes connaissent, quand même. Tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance. Et il dit, c'est une grâce devant Dieu. Une grâce devant Dieu. Et après, il continue le verset qui est marqué là. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous. Et on retrouve notre mot. Et vous a laissé un exemple. Et l'Église a appelé à suivre Jésus quelquefois dans ses souffrances injustes. Si je vous dis que voilà, vous allez devenir chrétien et la vie sera rose, sans paix, ça serait magnifique, ça serait superficiel. La vie sera difficile, mais vous arriverez à la station 15. Il faut quand même être imprégné de cette joie, souffrir. Hein, il y a le sourire de Jésus à la fin. Mais même pendant la route difficile, tu sais que tu entres dans ta vocation. Tu as appelé à ça. Et juste comme le linge peut être imprégné d'amertume ou d'amour, ta souffrance peut être imprégnée d'amertume ou d'amour. Tu peux dire, oh, je déteste toutes ces horribles personnes qui me traitent injustement. Ou tu peux dire, comme Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'autre jour, bon, je ne devais pas le dire, mais je vais le dire. Tu sais, j'ai passé 35 ans à servir dans une mission. 35 ans de ma vie, quand même. C'est long. Hein? Et dernièrement, je suis rentré. J'ai dit, oh, je vais aller au Pays de Galles dire un petit coucou, quand même. Et j'ai écrit au chef, là. J'ai dit, ah, je serai là. J'ai dit, oh, je vais faire. Parce que je suis un peu blessé, quand même. Parce qu'avec les années, bon. J'ai dit, mais comment je vais faire un grand acte de générosité? Je vais écrire et je vais dire, je suis d'accord de venir vous rencontrer à la base et tout ça. On peut renouer et tout ça. Et j'ai dit, oh, je l'ai fait. Et après, j'attendais une semaine, deux semaines, trois semaines. Et j'ai jamais eu une réponse. Après 35 années de service. Je ne veux même pas répondre à mon email. Oh, j'ai souffert. Je peux dire, j'ai souffert. Le rejet, manque de reconnaissance, injustice, c'est injuste, c'est vraiment injuste. Et donc, j'ai dit, soit je porte plainte, ou soit je porte pardon. Et j'ai dit, oh, je vais porter pardon. Et peut-être c'est à ça que je suis appelé. Peut-être c'est à ça aussi que je suis appelé, quelquefois. Qui sait, on n'est pas plus grand que Dieu. Je ne devais pas partager ça, non, mais bon, je l'ai fait. Et c'est ça, on est appelé quelquefois à passer par des rejets, des souffrances. Mais par la grâce de Dieu, Seigneur, ma main est sur ton épaule. Imprègne-moi de ton amour, Seigneur. Donne-moi la grâce. Renouvelle-moi même dans ma souffrance. Renouvelle-moi même dans ma capacité de supporter la souffrance avec une espérance pour la station 15 qui m'attend, là où il n'y aura plus de peine, plus de larmes. Je marche vers la résurrection. Et après, on arrive vers la fin. Il faut avancer un peu. 1 Pierre 4, hein, c'est juste l'autre côté. Et lui, il continue là, 12 et 14. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Ça vient, quelquefois, on est brûlé. On perd des ailes. Hein? Ça chauffe quelquefois. La fournaise qui sévit parmi nous pour nous éprouver. Comme s'il vous arrive quelque chose d'étrange. Tu n'es pas la seule personne qui souffre. Au contraire. Waouh. Si seulement je pouvais être au contre-courant quand ça m'arrive. Au contraire. Réjouissez-vous de participer et avoir une communion. Une sainte scène, une eucharistie, une participation aux souffrances de Christ. Voilà, ça l'Église, corps de Christ, de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse. Tu es deux fois réjouir, encore allégresse, souffrir. Ne laisse pas l'ennemi imprégner votre souffrance de tristesse, mais aie la victoire d'imprégner votre souffrance de grâce et de pardon et de pureté, et vous allez trouver une joie. Ça, c'est un miracle. Vous voulez vivre des miracles? Ça, c'est le premier miracle. C'est extraordinaire de trouver la victoire de la joie dans la souffrance, d'être avec Jésus. Afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, est-ce que vous vous sentez outragé de temps en temps? Oh, je suis outragé. Moi, je ne peux dire rien. De semaine, j'étais pas mal outragé. Je dis, mais c'est pas possible. Je comprends rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Honnêtement, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais bon, peut-être c'est juste l'incompétence. Hein, mais quand même, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Vous voulez avoir une onction? Oh, donne-moi l'onction, que le Saint-Esprit repose sur moi. Il y a un tremblement. Mais tu veux l'onction? Mais laisse cette onction de te réjouir dans les souffrances. Ça, c'est une vraie onction, vrai miracle. Mais ta main doit être bien accrochée sur le pot de Jésus, bien accrochée dans cette souffrance. Vous êtes heureux. Allez, Rémi, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur toi, au travail. Alléluia. Alléluia. Repose sur vous. Quand tu es là dans ta souffrance, tu as une onction sur toi, tu es imprégnable. Je suis là, je suis dans la joie, parce que je vis ma vocation. Merci, Seigneur. Et donc là encore, on trouve, il nous donne un exemple, si vous mettez en pratique. Je n'ai pas de problème de mettre ça en pratique. Hein. Vous allez souffrir, c'est sûr, injustement. Mais vous mettez ça en pratique, vous serez heureux. Et donc finalement, ces choses, Véronique, le service, le linge, la croix, c'est l'amour. C'est l'amour. Et quand Dieu il nous accueille dans le ciel, il ne va pas demander, t'es protestant, t'es évangélique, t'es pentecôtiste, il ne va pas dire, t'as eu la bonne doctrine. Est-ce que tu es un supra-lapsarien calviniste ou est-ce que tu es un infra-lapsarien calviniste? Je ne sais pas ce que tu dis. Il ne va pas dire, mais est-ce que tu étais un tas de lois? Non, il ne va pas dire ça. Il va dire, je cherche l'amour. Je cherche le linge. Je cherche la croix. Je cherche Véronique. Je cherche la vraie image. La vraie image. Il ne va pas dire, voilà, est-ce que tu es noir, est-ce que tu es blanc? Il ne va pas dire, est-ce que tu es monsieur le pasteur ou est-ce que tu es juste monsieur le voyou? Il ne va pas dire ça. Il ne va pas te juger par l'extérieur. Il va regarder. Là, je trouve une vraie image de mon fils qui est l'amour. Et il va trouver le linge, il va trouver la croix. Et ça sera l'amour. Et nous serons avec lui. Et vous voyez, alors peut-être c'est, voilà, c'est déjà la fin. Je ne peux pas reculer. Pas reculer. Si je peux retrouver station 15, parce que je veux, c'est pas grave. Vous savez. Et donc, voilà. Et donc là, quand nous serons éternellement dans la gloire, quand Dieu, il aura tout rétabli, on retrouvera notre innocence avec expérience. Et nous serons dans un royaume d'amour pour l'éternité. Et on a déjà quelques prémices de ça. Il y a quelques fesses à essuyer sur la terre avant d'arriver. il y a quelques injustices à supporter avant d'arriver, mais déjà, le petit sourire. Souffrir, servir avec un sourire. Et donc si c'est dur ce matin, parce que quelquefois c'est dur, peut-être on peut juste ouvrir notre cœur et de dire, Seigneur, j'ai tellement lavé des chaussées, j'ai tellement changé de couche, j'ai tellement été victime d'injustice, mais je ne veux pas que ma vie soit imprégnée d'amertume, de lassitude, mais je veux que ma vie soit imprégnée de la victoire de Christ et que tu imprègnes en moi cette participation. Et je sais que parce que j'ai souffert, c'est comme si les bras d'amour vont sortir de mon cœur pour aider les autres. Parce que ceux qui souffrent, c'est comme si les bras d'amour sortent de leur cœur. Et ces bras d'amour peuvent entourer d'autres avec une sympathie. Parce que sympathie, ça veut dire souffrir avec. Et quand vous avez souffert, vous devenez plus sympa. Vous devenez plus sympa. Et donc que Dieu nous donne tous d'être imprégnés du visage de Christ ce matin. Donc je vais prier, mais tout simplement, laissez-vous imprégner. Seigneur, visite-nous maintenant. La vie n'est pas toujours facile, Seigneur. Je suis souvent usé par le service. Je suis toujours souvent fatigué, même j'ai quelquefois un sentiment d'exploitation. Mais Seigneur, renouvelle-moi dans le service. Aide-moi à prendre le linge imprégné de ton visage, Seigneur. Et Seigneur, je souffre quelquefois. Et je souffre même beaucoup. Mais Seigneur, que ma souffrance soit imprégnée aussi de ton épaule d'un côté. Si Véronique a eu le visage, la souffrance à l'épaule. Et donc, Seigneur, je mets ma main sur ton épaule comme Simon de Cyrène. Et je dis, oui, je t'aide à porter ta croix, mais aide-moi aussi à porter ta croix. Il y avait une sorte d'aide mutuelle. Et donc, Seigneur, je mets ma main sur ton épaule ce matin. Et je dis, Seigneur, aide-moi à marcher tout le long de ce chemin de souffrance, jusqu'à arriver vers la station 15, vers la résurrection. Imprègne-moi aussi de résurrection, de cette espérance, de cette énergie, de cette force. Oh Seigneur, j'ouvre mon cœur ce matin. Donne-moi la force de servir. Donne-moi la force de souffrir. Et donne-moi la force d'accueillir ton espérance de résurrection dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen.